J'affectionne beaucoup de parler de la rue de Turenne ici, parce que c'est un endroit que j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps. C'est grâce à vous et grâce à Madame Beau, entre autres, que j'ai découvert cette maison, qui est une bibliothèque comme la nôtre, plus ancienne que la nôtre, puisqu'elle remonte au Second Empire, alors que notre bibliothèque, la bibliothèque historique, elle n'a été fondée que bien après, en 1800. En fait, elle s'est installée réellement à l'hôtel de Lamoignon qu'en 1969, et en fait, elle ne date que de 1892. Donc, vous voyez, nous sommes beaucoup plus jeunes que vous, et ça m'impressionne beaucoup de parler devant des gens qui ont beaucoup plus d'ancienneté que moi dans l'érudition. Alors, vous parlez de la rue de Turenne, je vais vous dire tout de suite, ne vous attendez pas à ce que je vous fasse un catalogue de tous les hôtels ou de toutes les maisons de la rue de Turenne. Il y a pour ça d'excellents guides, qu'ils soient verts ou bleus. Il y a aussi des dictionnaires des rues de Paris qui vous feront ça beaucoup mieux que moi. D'abord parce que je ne suis pas du tout spécialiste ni en architecture, ni je ne sais pas dépouiller les archives notariales. Moi, j'ai travaillé sur les 19e siècle, dès qu'on passe dans les écritures un peu anciennes, j'avoue que je nage complètement. Donc, je préfère vous parler un petit peu de la formation d'une rue parisienne, et entre autres la rue de Turenne, puisqu'on était là ce soir. Au fond, on a choisi celle-là parce que d'une part on y est, puis deuxièmement parce qu'elle présente des caractères tout à fait particuliers et tout à fait intéressants pour l'évolution générale de l'histoire de Paris. Et pour commencer, autant remonter relativement loin en arrière, enfin ça dépend par rapport à quoi, mais enfin remontons 40 000 ans avant Jésus-Christ, ça ne fait jamais de mal de se replonger très loin. D'abord, on découvre des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou qu'on n'a plus beaucoup l'habitude de voir, surtout à Paris. Et puis, deuxièmement, on comprend beaucoup mieux comment se forme une capitale. Parce que 40 000 ans avant Jésus-Christ, si vous regardez le bassin parisien, et plus exactement le site de ce qui était la cité des Parisiens, ce qui allait être la cité des Parisiens, puis Lutèce, vous découvrez en fait que c'est très différent. D'abord, il y a un grand fleuve, qui ne s'appelle pas encore la Seine, qui est un fleuve d'origine sibérienne à l'époque, puisqu'il faisait un froid sibérien, que la fonte des glaces commençait, et ce fleuve n'a pas du tout le cours que nous lui connaissons aujourd'hui. Il vient bien à peu près de Melun, vous voyez, vous vous souvenez, le plateau de Langres, et puis ça descend doucement. Mais arrivé dans le pas qui forme actuellement le pas d'Austerlitz, le col d'Austerlitz, oserais-je dire, eh bien, ce fleuve remonte d'un seul coup vers le nord, s'en va dans l'actuel bassin de l'Arsenal, bute contre les hauteurs de Belleville, et puis bute surtout contre les hauteurs de Montmartre. Vous voyez, il suit à peu près le cours des boulevards actuels, de ce qu'on appelle les boulevards extérieurs actuels. Et puis de là, il redescend tout doucement jusqu'à l'Alma, et à l'Alma, il rejoint une toute petite rivière qui, elle, suit le cours actuel de la Seine et qui s'appelle la Bièvre. Car à l'origine, la Bièvre descendait, elle, des hauteurs de Rungis et serpentait entre la montagne Sainte-Geneviève et le mont Parnasse pour aboutir à travers les Gobelins jusqu'à à l'emplacement actuel du pont de l'Alma. Alors tout ça, ça vous paraît très loin de la rue de Turenne, mais c'est pour vous expliquer que 30 000 ans environ avant Jésus-Christ, je ne vous garantis pas que ça soit passé en 30 000 exactement, mais environ 30 000 ans avant Jésus-Christ, ce qui n'est pas hier, mais ce qui malgré tout n'est pas très loin, la Seine, d'un seul coup, change de cours et quitte ce vieux cours qui commençait à s'ensabler tout doucement pour rejoindre celui de la Bièvre, comme quoi on n'est jamais assez aidé par les tout-petits, et la Bièvre elle-même se jette dans la Seine à ce moment-là, à l'emplacement bien connu aujourd'hui que l'on appelle la rue de Bièvre. Vous avez certainement dû entendre parler, surtout depuis quelques temps, de la rue de Bièvre, comme quoi il y avait déjà une célébrité avant. Donc, au centre de ce bassin, pour bien comprendre comment ça se passe, maintenant la Seine passe au cours actuel, et au centre de cette cuvette qui est cernée d'un côté par Montmartre, de l'autre côté par le Montparnasse, d'un côté par Chaillot et de l'autre côté par les hauteurs de Belleville, vous avez l'ancien cours de la Seine qui forme des marécages. Pendant très longtemps, ces marécages seront très difficilement traversables. Et puis, au centre de ces marécages, vous avez une plateforme insubmersible que les géologues appellent pompeusement l'île Saint-Martin. Et cette plateforme, elle va à peu près à l'est de l'emplacement actuel de la Bastille, jusqu'à l'ouest, à peu près à l'emplacement de ce qu'était autrefois le château des Tuileries. Et là, vous avez une plateforme totalement insubmersible et qui va à peu près au nord jusqu'aux limites des 2e et 4e arrondissements. Ça ne va guère au-delà. Au-delà, vous entrez dans la partie des anciens marais. D'ailleurs, baladez-vous sur le boulevard, allez jusqu'à l'ancien emplacement de ce qui s'appelait autrefois le comptoir national des comptes de Paris, près de la porte Saint-Martin, et vous verrez, c'est totalement en contrebas. Là, on est en dessous du niveau de la Seine. Si vous voulez le vérifier, c'est encore bien plus simple. Quelques-uns d'entre vous ont entendu parler des inondations de 1910. Vous regardez les cartes postales et vous verrez que ce qu'on appelle le marais n'a jamais été inondé. La Seine n'y est jamais parvenue. En revanche, tout ce qui est au-delà, les boulevards étaient parfaits complètement inondé. Et puis surtout, tout ce qui se trouve à l'ouest, l'Opéra, la gare Saint-Lazare, tout ça a été complètement inondé pendant les inondations de 1910. Tout ça a été sous les eaux. Donc ici, à cet emplacement de la rue de Turenne, de la Bastille, je vous dis, jusqu'aux Tuileries à peu près, vous vous trouvez sur une plateforme insubmersible. À cette plateforme appartiennent aussi, contrairement à ce qu'on croit souvent, l'île de la Cité et l'île Saint-Louis. En fait, la Seine a simplement creusé dans cette plateforme autour pour se frayer un passage, mais l'île de la Cité et l'île Saint-Louis, qui à l'origine étaient une série de petites îles qui ont été peu à peu réunies par les humains, et même l'ancienne île Louviers qui a disparu maintenant pour faire place au superbe bâtiment construit en 1971 par la préfecture de Paris, qui s'appelle le bâtiment de Morland, dont la beauté esthétique ne vous a certainement pas échappé. La Seine, en fait, a creusé autour de l'île de la Cité et de ce qui s'appelait autrefois l'île Notre-Dame, qui est devenue depuis l'île Saint-Louis. Donc, nous sommes ici, et ça c'est très important pour le comprendre, dans cette partie de la rue de Turenne, sur la partie insubmersible, mais dès que nous allons au-delà, c'est à peu près de l'église Saint-Denis du Saint-Sacrement, c'est-à-dire pas très loin d'ici, en fait ça a été remblayé, mais là on entre dans l'ancienne partie des Marais. Et si je démarre par là, c'est pour vous expliquer qu'il y a deux parties totalement différentes à l'origine de la rue de Turenne. Alors, au sud, donc, on se trouve sur la plateforme. Au nord, on se trouve dans le lit mal asséché de la Seine. Lit mal asséché, d'ailleurs, et ça, c'est très peu connu, au point que, sous Louis XIV, lors d'une crue, des bateaux ont encore pu aller par l'arsenal et remonter jusqu'au pied de Montmartre. Donc, vous vous rendez compte à quel point le lit a été asséché très tard. C'est tout à fait récemment que ce lit a été définitivement asséché. Et alors, c'est cet aspect physique de marais qui a fait donner au quartier son nom de marais. En fait, le marais, à l'origine, ce n'est pas du tout la partie où nous sommes ici, c'est une partie qui se trouve beaucoup plus au nord, c'est la partie du 3e arrondissement, autour de l'actuelle mairie du 3e arrondissement. Et on trouve encore la trace de cette idée de marais dans une rue comme la rue du Pont aux Choux. Ce pont aux Choux, en fait, c'était un pont qui permettait de traverser le marais à la hauteur de la rue du Pont aux Choux. Et avant la construction de la Bastille, il y avait, à l'emplacement de la place de la Bastille, un pont qu'on appelait le Pont Perrin. Et pendant très longtemps, il y a eu une rue qui s'est appelée la rue du Pont Perrin, près de la place de la Bastille. Malheureusement, nos édiles ont la fâcheuse manie de donner à leurs collègues du conseil municipal ou du conseil des ministres le nom des susdits, et c'est ce qui fait qu'actuellement Paris perd de plus en plus de son aspect vide quartier, et surtout on oublie le passé de Paris. C'est peut-être d'ailleurs ce qui explique qu'on construit n'importe quoi dans Paris. Bon, ça c'est une idée personnelle. Alors, dans ces deux points de la capitale, il faut bien le dire, l'habitat s'est développé de façon totalement différente. Et cela tient à l'aspect physique du quartier. Alors, on va remonter un peu moins loin qu'avant. Sous l'Empire romain, vous savez, c'est surtout sur la rive gauche que ça s'est développé, et dans l'île de la Cité. Et puis, les barbares sont arrivés, ces vilains barbares sont arrivés par vagues successives, les Germains à partir du 3e siècle, les Francs à partir du 4e siècle, entre-temps, il y avait eu les Visigoths qui n'avaient fait que passer, les Ostrogoths qui, eux, s'étaient dirigés vers l'Italie, les Vandales qui sont allés dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Andalousie, enfin, ça passait, ça revenait, ça repassait. Il ne faut pas imaginer que ça n'a été qu'une suite de destruction. En fait, il y avait des périodes de paix, et l'Empire romain lui-même en tant que tel ne s'est effondré réellement qu'à part qu'au 4e siècle après Jésus-Christ, ce qui fait relativement plus tard que ce que l'on croit d'habitude. Et il faut bien dire que l'apparition du christianisme a à ce moment-là pas mal modifié les structures. Le christianisme avait l'excellente idée de s'installer d'abord dans les faubourgs et puis d'envahir ensuite l'intérieur de la capitale, contrairement à ce que font les hommes politiques actuels qui commencent eux par l'intérieur et qui ensuite vont vers les faubourgs pour trouver des électeurs. Le christianisme c'était plus malin, il savait très bien qu'on commençait par les pauvres et qu'ensuite on faisait venir les pauvres dans Paris puisqu'ils s'enrichissent peu à peu. Donc, c'est avec l'apparition du christianisme et la conversion de Clovis en 508 que le renversement de tendance va se faire. La rive gauche est complètement abandonnée, elle est difficilement défendable parce qu'elle est sur une pente, donc l'ennemi peut arriver d'en haut et surprendre les gens sur la pente, alors qu'on découvre peu à peu que la rive droite, avec ses marais tout autour, est très facilement défendable. Et c'est ainsi que, alors que la cathédrale Saint-Étienne apparaît au 4e siècle dans l'île de la Cité, c'est l'actuelle Notre-Dame, vous pouvez d'ailleurs aller visiter cette ancienne cathédrale Saint-Étienne dans la crypte archéologique de Notre-Dame. Sur la rive droite apparaissent dès le 5e siècle trois églises relativement importantes. Saint-Germain-le-Rond, qui s'appellera plus tard Saint-Germain-l'Auxerrois, Saint-Pierre-aux-Bois, qui deviendra Saint-Méry, et Saint-Gervais-Saint-Protais, que l'on appelle aujourd'hui actuellement Saint-Gervais tout court. Et si on installe trois églises à ces endroits-là, c'est qu'il y a suffisamment de population, il faut bien se rendre compte de ça, pour qu'il y ait besoin d'un curé, d'une église et de des servants. Ça veut dire que la population d'une paroisse chrétienne, certes, mais que cette population est suffisamment nombreuse sur la rive droite. Donc là encore, une idée toute faite, on a cru pendant longtemps que seule l'île de la Cité était restée peuplée, mais depuis la fin du XIXe siècle, depuis des dépouillements très importants d'archives, on sait que très tôt, la rive droite a été à nouveau peuplée et que c'est à partir de ce moment-là que la rive droite a pris plus d'importance que la rive gauche. Au Xe siècle, ces communautés religieuses, la communauté donc de Saint-Germain, de Saint-Méry et de Saint-Gervais, sont suffisamment développées pour qu'on construise une première enceinte relativement mal connue qui entoure ces trois églises. Cette enceinte, on sait à peu près, d'après le peu de documents que l'on a, vous savez que c'est une période de l'histoire de France pour laquelle on a très peu de documents, la période qui va du 8e au 11e siècle, c'est la période pour laquelle on a pratiquement le moins de documents. Or, on sait à peu près, d'après quelques découvertes, et puis d'après des textes, en recoupant les textes, que cette toute première enceinte, bien avant celle de Philippe Auguste, couvre à peu près les actuelles rues du Louvre, voyez devant Saint-Germain-l'Auxerrois, entre le Louvre et Saint-Germain-l'Auxerrois, et se poursuit probablement au-delà des rues Saint-Méry et des rues de la Verrerie, pour redescendre vers le sud, jusqu'à ce qu'on appelle la porte Baudoyer, la place Baudoyer, qui tient son nom d'une ancienne porte qui s'appelait la porte Baudoyer, porte probablement de la première enceinte de Paris. Donc vous voyez que ça couvre à peu près une partie du premier arrondissement, le sud du premier arrondissement, et une toute petite partie du quatrième arrondissement, au fond, le quartier de Saint-Germain-l'Auxerrois, le Châtelet et l'hôtel de ville actuel. C'est à peu près tout. La ville se développe aussi autour des routes. Elle se développe d'une part autour de l'ancienne route qui va vers Rouen, l'actuelle rue Saint-Honoré, excusez-moi, puis Faubourg Saint-Honoré, et puis la route qui va vers l'est par la rive droite jusqu'à Melun. Et c'est ce qui explique qu'on voit apparaître très tôt, au Xe siècle, une église desservante de Saint-Gervais-Saint-Protais, c'est l'église Saint-Paul. La première église Saint-Paul, non pas celle que nous connaissons actuellement, mais la première église Saint-Paul, celle qui se trouvait approximativement là où se trouve aujourd'hui le monoprix de la rue Saint-Antoine, et dont on voit encore quelques restes d'arcade dans la petite rue Saint-Paul. Cette église Saint-Paul-des-Champs, probablement bâtie au XIe siècle, voit s'étendre autour d'elle un quartier, le quartier actuel Saint-Antoine, qui s'étend relativement vite au point qu'on est obligé de construire très rapidement une église entre Saint-Gervais et Saint-Paul-des-Champs, l'église Saint-Jean en Grève, qui se trouvait approximativement sur là où se trouvent actuellement les bâtiments de la caserne Lobo, et pour qu'on commence à envisager la construction d'une église un peu plus au nord, qui est l'église Saint-Jean-Saint-François. Donc vous voyez, très rapidement, on construit un certain nombre d'églises parce que ce sont des quartiers, le 4e arrondissement actuel, qui se développe très vite autour de la route de Melun. C'est d'ailleurs tout à fait normal parce que cette route de Melun, c'est une des routes par lesquelles se fait l'alimentation de Paris. Et qu'un des tout premiers ports de Paris, après le port qui se trouvait dans l'île de la Cité, approximativement là où se trouve actuellement l'hôtel des Ursins, le premier grand port de Paris, c'est l'Anse qui forme actuellement la place de l'hôtel de ville, ce qu'on appelait la Grève, qui était un endroit, le seul endroit sablonneux de la rive droite où les bateaux pouvaient facilement accoster et donc décharger. Et c'est donc à partir de la route de Melun d'un côté qui amenait le blé de l'Est et de la route de la Seine que le quartier se développe tout doucement vers l'Est. D'ailleurs, le premier marché, c'est un marché qui se trouvait probablement près de la porte Baudoyer, le marché Saint-Jean, le premier marché important, et peu à peu, vous allez voir l'importance que vont prendre les marchés vers l'est, puis vers le nord, jusqu'à l'installation des Halles, le marché au Champeau, le premier marché qui s'installe probablement vers le XIIe siècle à l'emplacement que nous avons tous connu et qui maintenant a été abandonné pour Rungis. Alors, en ce qui concerne la partie, donc voyez, la partie méridionale de la rue de Turenne, c'est probablement formé autour de cette première église Saint-Paul et autour de cette communauté urbaine qui s'est formée là. Pour la deuxième partie de la rue de Turenne, là, ça se forme beaucoup plus tard. Vers le milieu du XIIe siècle, l'ordre militaire du Temple de Jérusalem s'avait établi une maison au nord de la capitale, dans des terrains qui étaient libres, qui leur avaient été donnés par le roi, et ces terrains, c'était les fameux marais dont je vous parlais tout à l'heure. Là où vous avez actuellement le marché du Temple, là où était la maison du Temple, c'était là que les Templiers s'étaient installés, parce que ça leur permettait d'abord de construire de vastes bâtiments, et deuxièmement d'établir une enceinte soigneusement protégée, puisqu'il y avait naturellement des marais à cet endroit-là. Il faut bien dire que depuis très peu de temps, grâce aux études qui ont été faites par Jean-Pierre Bablon, on sait qu'il y a eu, ça c'est une parenthèse, mais une parenthèse qui est intéressante, on sait qu'il y a eu probablement un premier temple dans Paris qui ne se trouvait pas du tout dans cet endroit-là, mais juste derrière l'hôtel de ville. C'est ce qu'on appelait la maison de la pierre levée. C'était une énorme bâtisse qui se trouvait derrière l'hôtel de ville, qui a été détruite en 1844, et dont fort heureusement à la bibliothèque historique, nous avons les plans et nous avons une coupe, et qui semble démontrer un tel appareil architectural que ça ne peut pas être autre chose qu'une énorme tour des défenses, et elle ressemble très curieusement à la tour du temple qui a été ensuite construite là où s'est trouvé le temple ensuite. Donc on peut penser que dès le XIe siècle, les Templiers ont eu une maison dans Paris juste derrière l'arcade Saint-Jean, ce qui était l'arcade Saint-Jean autrefois, derrière l'hôtel de ville actuel. Puis, ne pouvant se développer, faute de place, puisque les maisons se construisaient tout autour, ils ont dû s'installer, grâce à ces terrains libres, beaucoup plus au nord, là où ils avaient toute la liberté de construire une maison qui devint le siège des chapitres généraux de l'ordre du Temple. Sans doute autour de l'église et du donjon, on avait établi, on le sait d'ailleurs, on avait établi des grands fossés, des grands murs. Et alors cette église, là aussi, parenthèse, cette église, on a beaucoup parlé, vous savez, de la tour du temple, la sinistre tour du temple, où Louis XVI, Marie-Antoinette et Madame Élisabeth ont fait les beaux jours de l'iconographie un peu larmoyante de Paris au XIXe siècle. Mais on parle beaucoup moins de la première église du temple. Et cette église du temple, là aussi c'est une parenthèse, très intéressante pour nous, c'est que cette première église du temple est une faute de documents, on la connaît très mal. On en a juste une gravure en tout et pour tout, c'est une des rares églises sur laquelle on ait si peu de documents. Une seule gravure, Sylvestre n'a donné que des vues très lointaines et il y a une gravure anonyme qui la montre. Cette église, en fait, était une rotonde romano-gothique. Elle était parfaitement ronde à l'imitation de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, de la première église du Saint-Sépulcre. Au début du siècle suivant, au début du XIIIe siècle, donc, on lui avait adjoint un vaisseau sans collatéraux avec 5 travées et un chevet carré. Mais ce qu'il y avait de très important, c'est cette coupole voûtée d'ogives qui couronnait l'édifice et qui reposait sur 6 énormes colonnes. Et autour de ces colonnes se trouvait un déambulatoire parfaitement circulaire. Or, c'est la seule église, vous retrouvez à peu près la même chose dans le temple de Londres, mais c'est le seul exemple d'église de ce type que l'on ait eu en France. Et il faut bien dire que lorsqu'on l'a détruite en 1793, je crois qu'on a commis un acte absolument irréparable pour l'archéologie parisienne et je crois pour l'archéologie mondiale, car c'est vraiment le seul exemple de temple aussi important qu'il y ait eu, le temple de Londres étant beaucoup plus petit que le temple de Paris. À côté de ça, on peut regretter aussi les tombeaux des grands prieurs qui se trouvent à l'intérieur, notamment le tombeau d'Amador de la Porte, dont la statue qui était sculptée par Michel Bourdin se trouve aujourd'hui au musée du Louvre. On peut regretter aussi les bâtiments conventuels du XIIIe siècle et le cloître qui avait des arcades géminées tout à fait remarquables et tout à fait particulières dans Paris. Bon, ça, malheureusement, des cloîtres, il y en a eu d'autres de détruits dans Paris, mais je crois qu'on peut regretter à tout jamais la destruction de l'église du Temple. Alors, ce qu'il y a de particulier aux Templiers, c'est qu'ils avaient acquis, par leur fortune, d'énormes domaines autour de leur couvent. Ces domaines étaient non seulement, ils étaient donc dotés de ces terres dont on pouvait faire ce qu'on voulait, mais aussi les Templiers disposaient de privilèges énormes, c'est-à-dire qu'ils pouvaient accorder pratiquement une totale liberté à toutes les personnes qui voulaient venir s'installer chez eux, et que vous soyez artisan, commerçant ou agriculteur, vous veniez, moyennant un certain sens, moyennant une certaine location, vous aviez le droit de prendre des terrains sur les terrains des Templiers, d'établir un commerce, et vous aviez à côté de ça des libertés énormes qu'il n'y avait pas dans le reste de la capitale. Par exemple, les paysans dépendants du temple ou les commerçants ne payaient absolument pas ce qu'on appelait la capitatio, ne payaient pas non plus d'impôts au royaume ou au parlement. Donc ils jouissaient d'une liberté énorme qui s'est prolongée d'ailleurs jusqu'à la Révolution française. Et c'est probablement ce qui explique aussi l'installation sur les terrains du temple de ce qu'on a appelé la cour des miracles. Car à côté de ça, il y avait aussi, pour les personnes qui s'installaient dans les alentours du temple, une immunité pratiquement complète. Seul l'ordre du temple avait le droit de les juger. Les sergents d'armes du roi, eux, n'avaient absolument pas le droit de pénétrer là-dedans. Et c'est ce qui explique probablement l'installation autour de Saint-Nicolas-des-Champs, de cette cour des miracles, qui n'a disparu, qui a perduré jusqu'à la Révolution, et qui, malgré ce qu'en a pu dire Victor Hugo, avait complètement disparu au moment de la Révolution française. Il n'en restait que les bâtiments. Alors, très tôt, les Templiers qui étaient, je ne voudrais pas les critiquer, mais ça se faisait beaucoup à l'époque, c'était des hommes d'argent, et mon Dieu, est-ce que les temps ont réellement changé actuellement? Je ne le crois pas. Les Templiers avaient compris l'importance de la mise en valeur des terres qui se trouvaient autour d'eux. L'aspect défensif du temple à partir du XIIIe siècle n'était plus tout à fait évident. On se défendait beaucoup moins. D'ailleurs, même des bastions comme ceux construits par Charles V étaient plutôt offensifs que réellement défensifs. Mais ça, ce serait un autre sujet. Ce serait très intéressant de revoir d'ailleurs nos notions d'enceinte, que ce soit celle de Philippe Auguste ou celle de Charles V ou celle plus tard de Louis XIV, qui sont certainement beaucoup moins défensives qu'offensives. Mais surtout, les Templiers avaient compris qu'en développant leurs terres, ils développaient aussi, en développant la culture de leurs terres, ils développaient aussi leurs revenus. Ils ont d'ailleurs soigneusement fait défricher par tous les colons qui venaient de France et de Navarre, et ils les ont d'ailleurs certainement fait tellement bien défricher que la fortune du temple, vous le savez, a attiré la jalousie de pas mal de gens, dont celle du roi et dont celle de l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui voyaient d'un très mauvais œil leurs rivaux du temple accroître leur fortune, pendant que celle des hospitaliers qui disposaient de moins de privilèges s'accroissait moins. Ce qui fait qu'en 1312, en réalité, personne ne fut réellement surpris quand Jacques de Molay fut arrêté, et on fut encore moins surpris lorsqu'il fut brûlé au bout de l'île de la Cité, dans les jardins du roi. Comme ça, là, on était en pleine symbolique. Le roi faisait brûler dans son propre jardin celui qui avait été son principal conseiller et qu'il avait renié parce que son pouvoir s'étendait un peu trop et faisait trop d'ombre et au pape, il faut bien dire, et au roi de France qui, pour une fois, se trouvait main dans la main pour en faire brûler un troisième. Donc, lorsque les biens du temple ont été séquestrés, et ils n'ont pas été longtemps, ils ont immédiatement été remis à l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui étaient plus souples, plus arrangeants vis-à-vis du pape d'un côté, du roi de l'autre. Et les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem se sont dit, mon Dieu, les Templiers n'avaient pas mal réussi dans le domaine économique, poursuivons la même politique, en nous montrant cependant plus prudents et en ouvrant plus largement nos coffres au roi comme au pape. Et ils ont poursuivi exactement la même politique d'assèchement des marais et de lotissement, peu à peu, des terres. Seulement comme entre-temps on avait construit et l'enceinte de Philippe Auguste d'un côté et plus tard l'enceinte de Charles V, ils ne pouvaient guère se développer vers le nord où il y avait une interdiction de construction, donc ils se sont étendus vers le sud et les lotissements ont peu à peu rejoint ce qui était le bourg Saint-Antoine. Et c'est ainsi que peu à peu on va voir les deux communautés se rejoindre. Et au fond, c'est au fur et à mesure que les terrains des Templiers étaient défrichés, mis en valeur, au fur et à mesure que Paris, lui, s'accroissait vers le nord, que des spéculateurs, des promoteurs, disons-le, le terme de promoteur est tout à fait d'actualité dès le XVIe siècle, se sont rendus compte du profit qu'ils pourraient tirer de ces terrains, puisque Paris se développait vers le nord, autant développer des quartiers nouveaux. Et c'est ce qui explique d'ailleurs à peu près le visage actuel du Marais sur lequel on va revenir tout à l'heure. Alors, au sud, les choses ont évolué de façon parallèle dans notre quartier, là où nous sommes aujourd'hui. Et ont évolué grâce aussi à une communauté religieuse. En 1201, c'est-à-dire au tout début du XIIIe siècle, quatre professeurs de Paris qui étaient un peu dégoûtés de la vie parisienne, déjà l'écologie fleurissait, ils s'appelaient Guillaume, Richard, Évrard et Manessès, ont fondé dans une vallée tout à fait sauvage du côté de Langres une petite communauté, un ordre religieux, soumis à la règle de Saint-Augustin qui était, mon Dieu, une règle relativement dure et sévère. Comme toujours, quand ça marche, on attire du monde, et ils ont attiré pas mal d'écoliers, entre autres des écoliers parisiens qui venaient suivre leur enseignement. Et d'ailleurs, ils ont attiré tellement d'écoliers que peu à peu, on a appelé cet ordre l'ordre du Val des écoliers. Et puis, avec le succès, ils ont songé à retourner à Paris. Vous voyez comme quoi, là aussi, c'est comme quand on élève des moutons dans les Causses. Une fois que les fromages marchent bien, ben, on va les vendre à Paris, ce qui me paraît tout à fait normal. On retourne toujours sur les lieux du crime. Eh bien, ces quatre professeurs ont fait la même chose. Ils ont laissé leur couvent du côté de Langres et ils sont venus à Paris. Et ils ont demandé à fonder un nouvel établissement dans la capitale. Ce qui n'alla pas sans poser de problème, d'une part, vis-à-vis de l'Université de Paris, qui voyait d'un mauvais œil ces hommes qui avaient relativement bien réussi dans l'enseignement venir jeter à côté d'eux une ombre qui leur déplaisait, et puis aussi vis-à-vis du roi, qui trouvait qu'il régnait dans ce Val des Écoliers une liberté de pensée qui n'était guère satisfaisante pour le bon ordre des choses. Cependant, ils ont trouvé un appui, comme toujours, du côté du pape. Quand le roi est contre, le pape est pour, et réciproquement. Et un certain Nicolas Gibouin, qui était un intime du pape et qui était aussi bourgeois de Paris et échevin de Paris, donc qui n'aimait que moyennement le pouvoir royal, n'a rien trouvé de mieux que de leur donner un certain nombre d'arpents de terre, 3 exactement, qu'ils possédaient dans ce qu'on appelle près la porte Baudoyer. C'est-à-dire, en fait, tout à fait sur la partie occidentale de la rue Turenne actuelle. C'est-à-dire à peu près des terrains qui s'étendaient depuis l'ancienne rue, la rue du Temple, jusqu'à notre rue ici. Et quelques années plus tard, un certain Pierre de Brême leur a fait don d'un champ voisin, plus à l'est, sur lequel ils ont édifié leur couvent. Alors, ce couvent, on a pu rapidement construire des bâtiments conventuels, mais ce qui est bizarre pour un couvent, pendant 50 ans, il a manqué une église. C'était comme ça, on disait les messes dans une petite salle, mais pas d'argent pour faire une église. C'est alors que, en 1214, les sergents d'armes du roi, qui après 1214, bien après, les sergents d'armes du roi, qui lors de la bataille de Bouvines avaient dit « si on gagne la bataille, vous voyez 1214, si on gagne la bataille, on construirait une église à Sainte-Catherine », et comme ils ont gagné la bataille, ils étaient bien obligés de tenir leurs vœux, ont décidé de construire une église. Et puisque justement il manquait une église au Val des Écoliers, bah, pourquoi pas ne pas leur donner l'argent. Ils ont donc fourni les fonds, et en 1229, le roi Saint-Louis en personne, il n'était pas saint à l'époque, hein, mais enfin il est devenu par la suite, donc le roi Louis IX est venu en personne poser la première pierre de l'édifice qui a été relativement vite construit. Et il faut bien dire qu'à partir du moment où Saint-Louis, qui donnait beaucoup dans la religion, ce qui fait qu'il a été récompensé par la suite du titre de saint probablement, eh bien Saint-Louis a été toujours particulièrement généreux vis-à-vis de l'ordre du Val des Écoliers et par la suite ses successeurs qui se disaient qu'il valait toujours mieux être bien avec les intellectuels, surtout quand ceux-ci recevaient des dons un peu de partout, se sont montrés à leur tour tout à fait généreux vis-à-vis du prieuré. Il faut bien dire aussi que là, on retombe dans le plus haut comique. Lorsque Étienne Marcel s'est révolté contre le pouvoir royal, vous savez qu'il a été ensuite pris en pleine forfaiture en 1358 alors qu'il remettait les clés de la ville de Paris aux ennemis. Il a été pris pas très loin d'ici. Et à ce moment-là, il a été assassiné avec ses compagnons. Et c'est dans le couvent du Val des Écoliers que le corps d'Étienne Marcel a été transporté et a été exposé pendant plusieurs jours à la vindicte publique qui s'était très rapidement retournée, il faut dire, après avoir soutenu Étienne Marcel pendant un moment. Le corps ensuite a été jeté en Seine. Donc juste retour des choses, le Val des Écoliers a servi d'appui, là encore, au roi contre Étienne Marcel qui s'était révolté contre le roi. C'est aussi dans cette église que Henri III a fondé l'ordre des pénitents blancs, qui lui a été tellement utile pendant la Ligue et qui par la suite s'est retourné contre lui puisque Henri III, c'est connu, a été ensuite assassiné par un partisan des Ligueurs. Et cet ordre des pénitents blancs, vous le savez, a été un des plus farouches partisans des catholiques pendant la fin des guerres de religion et pendant la Ligue. Donc, Sainte-Catherine du Val des Écoliers a été une église qui a beaucoup compté dans la vie parisienne. Je vous conseille d'ailleurs actuellement d'aller voir, si vous avez quelques minutes, une petite exposition qui a lieu au musée Carnavalet qui s'appelle Saint-Paul-Saint-Louis, mais dans laquelle vous avez une grande partie consacrée à Sainte-Catherine du Val des Écoliers. Église sur laquelle on a très peu de documents aussi, très peu de documents iconographiques. Il se trouve que tout à fait par hasard, l'an dernier, à la salle des ventes, il y avait un grand lot de dessins divers qui passaient comme ça dans un gros carton, et le commissaire priseur a demandé les amis aux enchères en entier. Et il se trouve que dans ce carton, nous avons trouvé quelque chose qui était église Sainte-Catherine sans autre dénomination, et on a découvert de très belles élévations du portail de Sainte-Catherine du Val des Écoliers. Or, ce portail a été élevé en 1661, vous le verrez au musée Carnavalet lors de l'exposition, par le père de Creil, qui était un des moines de Sainte-Catherine du Val des Écoliers, et décoré des sculptures de Martin Desjardins. Ce que l'on peut dire sur Sainte-Catherine des Val des Écoliers, c'est que dès la fin du XVIe siècle, le monastère, malgré toutes les libéralités dont il était l'objet aussi bien de la part des bourgeois de Paris que de la part des rois de France, pour des raisons de mauvaise gestion, était peu à peu obligé d'aliéner les terrains qu'il avait. Ces terrains s'étendaient d'est en ouest environ de la rue Vieille du Temple au palais des Tournelles vers le XVIe siècle. Le palais des Tournelles, c'est l'actuelle place des Vosges, enfin, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Et du nord au sud, il s'étendait à peu près de la rue Saint-Antoine jusqu'au Temple, c'est-à-dire jusqu'à l'actuel marché du Temple. Et les religieux en aliénèrent peu à peu des morceaux, si bien qu'en 1676, il ne leur restait plus que des terrains situés entre l'actuelle rue Sévigné, qui s'appelait d'ailleurs la rue Sainte-Catherine, la rue des Francs-Bourgeois, celle de Turenne et celle de Saint-Antoine. Vous voyez, en un siècle, ça s'était soigneusement diminué. En 1768, les religieux durent quitter leur couvent pour occuper l'ancienne maison professe des jésuites de l'autre côté de la rue, c'est-à-dire l'actuelle église Saint-Paul-Saint-Louis, qui s'appelait autrefois Saint-Louis des jésuites, et qui, lorsque les jésuites ont été chassés de France en 1768, a pris le nom de Saint-Louis-la-Couture, pour rappeler la culture de Sainte-Catherine du Val-des-Écoliers. Et l'église Saint-Paul-Saint-Louis a hérité d'une partie des tombeaux de l'église Sainte-Catherine du Val-des-Écoliers. Et l'église Sainte-Catherine du Val-des-Écoliers elle-même a été détruite en 1783 pour construire sur l'emplacement un marché. Comme quoi, vous voyez, après avoir servi Dieu, il faut bien servir les hommes. Il faut bien dire aussi que ça, c'est tout à fait regrettable de l'avoir détruite, parce que Sainte-Catherine du Val-des-Écoliers possédait, outre la nef, une des plus jolies flèches de Paris, une des flèches les plus fines de Paris. Elle était extrêmement célèbre. Que d'autre part, il y avait à l'intérieur les tombeaux du chancelier de Birague et de son épouse Valentine Balbiani, qui avait été exécutée par Germain Pilon, et que malheureusement, on ne peut plus voir que quelques vestiges de ces tombeaux qui sont actuellement exposés au Louvre, près du pavillon de Flore. Vous pouvez les voir. Malheureusement, une partie de ces tombeaux a été détruite à la Révolution française. Il n'en reste donc plus que des vestiges des sculptures de Germain Pilon. Mais enfin, vous les verrez aussi représentées à l'exposition de Carnavalet sur Saint-Paul-Saint-Louis. Alors, revenons à notre rue de Turenne. Pourquoi toutes ces digressions? C'est parce que c'est à partir de Sainte-Catherine du Val-des-Écoliers que s'est lotie toute la partie occidentale de la rue de Turenne. Vous savez que la ville de Paris était alimentée depuis environ le XIe siècle par des ruisseaux qui venaient de Belleville, de ce qu'on appelle la colline de Savy et du Pré Saint-Gervais. Il existe d'ailleurs toujours au Pré Saint-Gervais un regard d'eau qui date du XVIIe siècle, qui n'est pratiquement plus en fonctionnement, mais qui existe toujours et qui est un des plus anciens regards d'eau qui soit dans la capitale. Et ces eaux de Belleville venaient, c'était des petits ruisseaux qui descendaient, et certains avaient été très tôt détournés pour en faire des égouts. Et entre autres, un de ces égouts passait le long de l'hôtel Saint-Paul, tout à fait au sud de l'église Saint-Paul, le long de l'hôtel Saint-Paul où logeait le roi Charles VI. Le roi Charles VI, étant incommodé par les odeurs, a donc demandé à ce que cet égout soit détourné vers les bourgeois. Eux, ils avaient droit aux odeurs, le roi avait droit à mieux que ça. Et alors, là encore, ce sont toujours des marchandages, j'oserais dire de soupe pratiquement. Il a fallu 3 ans de marchandage avec le prieuré de Sainte-Catherine du Val-des-Écoliers pour obtenir que le ruisseau passe le long du mur de Sainte-Catherine du Val-des-Écoliers. Alors les moines se sont fait largement tirer l'oreille et finalement ont cédé tout ça pour 100 livres tournois de rente annuelle. Et puis au bout d'un an, ils ont dit non, c'est pas juste, on veut 105 livres tournois. Alors finalement, ça s'est arrangé, ils ont obtenu leurs 100 livres, mais moyennant ça, ils avaient un droit de passage sur les terres du roi. Vous voyez, passe-moi la rhubarbe, je te passe le séné. Enfin, ça a été très très long, 3 ans de longues palabres, et on a fini par transformer l'emplacement qui se trouve ici en un égout découvert en 1412, et on a fait passer le long de cet égout une ruelle, vous imaginez ce que ça pouvait être, une ruelle qui a pris le nom de rue de l'égout. Et il faut bien dire que cette ruelle continuait tout droit jusqu'à la Seine, donc on prenait les eaux du ruisseau qui venait, qui longeait le mur du Temple, qui descendait de Belleville, qui longeait le mur du Temple, qui longeait toute la rue actuelle, la rue de Turenne, et puis qui se transformait en égout à partir de l'endroit où il y avait des habitations et qui là se dirigeait jusque sur la Seine. Alors vous imaginez un égout découvert, il est resté découvert jusqu'en 1560, vous imaginez que ça ne devait pas sentir particulièrement bon. Alors, ce que on sait, c'est que cette ruelle s'est appelée d'abord la rue de l'égout, puis de l'égout Sainte-Catherine, comme ça, ça permettait d'être un peu plus honorable, puis de l'égout couvert à partir de 1560, puisqu'il était couvert, puis puisqu'on a été passé après de l'égout Saint-Paul, puisqu'en principe, ça desservait le quartier Saint-Paul, et puis alors, en 1839, comme on avait l'odorat tout à fait et définitivement sensible, on a appelé ça la rue du Val-Sainte-Catherine, comme ça, ça faisait oublier qu'il y avait un égout juste en dessous. Et puis, en 1865, pour honorer le maréchal de Turenne, qui n'avait rien à voir avec les égouts, ça, on y reviendra tout à l'heure, il avait eu un hôtel dans le coin, on a appelé ça la rue de Turenne. Mais on a joint simplement l'ancienne rue du Val-Sainte-Catherine à la rue Saint-Louis-au-Marais, puisqu'elle s'appelait comme ça, et c'est devenu la rue de Turenne. Alors, cette rue de l'Égout est mentionnée pour la première fois dans le plan de Gombouze que je vous montrerai en 1652. Mais les frères Lazare, qui travaillaient à l'hôtel de ville avant sa destruction, qui étaient bibliothécaires et en même temps pigistes à l'hôtel de ville, et qui donc avaient accès à toutes les anciennes archives de l'hôtel de ville qui ont hélas brûlé en 1871 lorsque les communards ont mis le feu, les frères Lazare affirmaient dans leur dictionnaire des rues de Paris en 1855 que des titres de 1505 constatent l'existence de cette voie publique sous le nom de l'Égout de Sainte-Catherine. Les comtes d'Angoulême y possédaient alors un hôtel, ce qui prouve qu'ils étaient moins sensibles que nous aux odeurs d'égout. Et François Ier, étant parvenu à la couronne, avait réuni cet hôtel d'Angoulême, qui se trouvait donc quelque part sur cette rue de l'égout, on ne sait pas très bien où, au palais des Tournelles. Et on sait aussi, on a des extraits de lettres patentes qui ont disparu malheureusement depuis, du 14 mai 1777, qui nous donnent une idée de ce qu'était cet égout. Louis, il s'agit de Louis XV, par Dieu, par le roi, vous connaissez l'histoire. Sur ce qui nous a été représenté par les prévôts des marchands et échevins de notre bonne ville de Paris, que la rue Saint-Louis, l'une des plus belles de la capitale, il s'agit du nord, de la partie nord, manque de communication directe dans la rue Saint-Antoine, vous pensez, il y avait juste un égout qui passait là, une petite ruelle à peine couverte, parce que le canal voûté qui passe dessous a son embouchure dans la rue de l'égout, et que le ponceau qui subsiste dans cette même rue occupe une grande partie de sa largeur, dont le surplus est garni de marches, ce qui ne veut pas arranger le passage des voitures, en telle sorte que les chevaux ne peuvent y passer et que les gens de pied risquent de tomber et de se blesser, ont ramassé en moyenne une personne par semaine, ce qui est fréquemment arrivé, que la dite rue de l'égout, dont la largeur n'est que de 15 à 16 pieds au plus, est destinée à former suite et communication à la rue Saint-Louis, qui a 46 pieds, vous voyez, ici ça avait 16 pieds, plus loin ça en avait 46 de large, à ces causes, etc., article 1er, la dite rue de l'égout Saint-Paul sera élargie de 8 pieds dans toute son étendue, de manière qu'elle ait par la suite 24 pieds de large, etc., etc. En fait, il a fallu attendre environ 1820 pour que ce soit fait. Enfin, en 1777, on avait le temps devant nous, et on pensait que les rois étaient infaillibles, et surtout dureraient beaucoup plus longtemps qu'ils n'ont duré. Donc, depuis 1412, date de son ouverture, l'égout était resté à ciel ouvert jusqu'en 1560, et il faut bien dire qu'au XVIe siècle, en dehors d'une maison qui était signalée à l'angle de la rue Saint-Antoine et de la rue de l'égout, il semble qu'il n'y ait pas eu grand-chose. Cet hôtel d'Angoulême dont on parle devait se situer beaucoup plus au nord, près de l'actuelle place des Vosges, enfin beaucoup plus au nord par rapport à la rue Saint-Antoine, près de la place des Vosges. Après la couverture de l'égout, au dire des contemporains, elle restait une rue, donc je vous l'ai dit, incommode, mal pavée, encombrée d'escaliers, une sorte de trait d'union malsain entre la rue Saint-Louis, qui était relativement large, et la rue Saint-Antoine, qui était très fréquentée, elle, et un procès verbal du 21 août 1636 signalait même que la rue de l'égout était pleine d'immondices et de boue demi-sèche qui obstruait totalement le passage vers la rue Saint-Antoine. Quand on sait que les contemporains n'avaient pas peur de passer sur les monceaux, s'ils disent qu'ils n'arrivaient pas à passer, c'est que vraiment il devait y en avoir une quantité monstrueuse. Alors, malgré tous ces inconvénients, il faut dire qu'au XVIIe siècle, les religieux du Val-Sainte-Catherine, qui avaient besoin d'argent, ont trouvé des acquéreurs pour leur terrain, que le voisinage nauséabond ne devait pas incommoder tant que ça. Et c'est ainsi qu'au XVIIe siècle, on allotit les parcelles numéro 10 à 20 actuelles de notre rue de Turenne, dépendant ces hôtels de la place des Vosges. Et il faut bien dire que jusqu'en 1914, c'était de curieuses bâtisses qui, surtout le numéro 10 et 12, qui bordaient sur sa façade orientale le début de la rue de Turenne. Il y avait à cet endroit-là, au numéro 12, une construction tout à fait bizarre que les gravures de Mérion montrent comme étant maison du haut Moyen-Âge dans la rue de Turenne. En fait, Mérion n'était pas un spécialiste d'histoire et il ne pouvait pas savoir qu'en fait c'était tout simplement le duc de Chaulnes qui avait son hôtel au 9 Place des Vosges, l'actuel siège de l'Académie d'architecture, qui au fond de son jardin s'était construit un cabinet de curiosité. Et ce cabinet de curiosité, comme il était très grand, il avait besoin d'un peu plus de place sur la rue. Alors il avait construit en encorbellement au-dessus de la rue un bâtiment qui était soutenu par des sortes de mâchicoulis. Je vous en avais fait une diapositive, je suis très mauvais photographe, donc vous ne la verrez pas parce que moi-même je n'ai pas pu la voir lorsque j'ai développé les photos. Je suis désolé, là j'ai mis l'excuse à vous présenter et à me faire pardonner. Vous verrez d'ailleurs que malheureusement toutes celles que j'ai faites sont relativement sombres. Enfin, celle-là atteignait le plus profond du haut Moyen-Âge et les obscurités les plus totales. En fait, le duc de Chaulnes, donc, avait construit cette dépendance en 1679. Pour cela, il faut bien dire qu'il avait obtenu auparavant l'autorisation du roi, du Parlement de Paris, des échevins, et puis aussi, et ça me paraît toujours plus amusant, il fallait demander l'autorisation de tous les voisins de la rue jusqu'à une certaine distance. Alors, s'il l'a obtenu, c'est qu'il avait le bras certainement assez long. Donc, jusqu'en 1914, il y avait ce très curieux petit bâtiment. Il y avait aussi, au 14, une dépendance de l'hôtel de Rohan. L'hôtel de Rohan se trouve 13 place des Vosges, qui ouvrait sur la rue par un très curieux portail, un superbe portail même d'époque Louis XVI, lui, qui rappelle tout à fait les œuvres de Ledoux. D'ailleurs, on a pensé pendant longtemps que c'était une œuvre d'un Boulet ou d'un Ledoux quelconque. Malheureusement, en 1914, Ledoux et Boulet, ça ne disait pas grand-chose à qui que ce soit, et on l'a détruit. Ce portail, on en avait les photos, je devais vous les montrer, mais à culpa, vous ne les verrez pas, mais vous pourrez les voir si vous venez un jour à la bibliothèque, on vous les montrera, c'est juré, était formé de deux colonnes doriques surmontées d'un linteau à modillon. Tout à fait ce qu'on voit, par exemple, rue Michel Lecomte à l'hôtel d'Alouil actuellement. Tout à fait dans le style de Ledoux. Bon, tout ça est parti. Le numéro 20 était aussi une très belle maison, le numéro 20-22. En 1914, ça appartenait à l'assistance publique, et vous savez qu'il n'y a rien de tel que les administrations publiques pour démolir les belles maisons. Et c'était une superbe maison qui faisait la suite de l'hôtel Feydeau de Marville. Vous voyez l'hôtel qui fait l'angle de la place des Vosges et de la rue des Frambourgeois actuellement. C'était tout simplement une dépendance qui longeait la rue des Frambourgeois et qui se terminait en aile sur la rue de Turenne. Et il y avait un toit aussi beau que ceux de la place des Vosges. C'était un superbe bâtiment du XVIIe siècle. Disparu, exit en 1914, et vous savez par quoi ça a été remplacé. Si vous promenez, vous verrez, enfin on a fait un très beau pan coupé avec un immeuble dont les fenêtres fort régulières illuminent le bout de la rue de Turenne. Personnellement, je trouve que c'est une abomination, mais c'est le goût des années. Je crois que ça a été terminé en 1922, c'est les années folles, et mon Dieu, on peut pardonner ça aux années folles. Et au fond, le seul bel ensemble qui est subsisté, si j'ose dire, du XVIIe siècle triomphant dans la rue de Turenne, c'est l'hôtel Colbert de Villasserre. Et vous voyez tout de suite, j'ai découpé ce qu'ont écrit les autres parce que c'est beaucoup plus facile. Moi-même, je ne suis pas spécialiste, alors je vous lis ce qu'ont écrit les autres sur l'hôtel Colbert de Villasserre, qui se trouve actuellement 23 rue de Turenne et qui se caractérise, lorsque vous passez devant, par un système de sécurité qui vous permet d'entendre régulièrement une sirène. Vous avez la sirène qui marche à peu près tout le temps quand vous passez 23 rue de Turenne. Et vous n'avez, ça c'est aussi une chose qui disparaît dans Paris, il n'y a plus de boîte aux lettres à l'extérieur, il y a simplement des petites sonnettes où on ne met plus des noms mais des numéros. Vous devenez peu à peu des numéros, moi aussi d'ailleurs probablement. On remplace nos noms par des numéros et alors on sonne si on a le numéro uniquement et en principe le portail s'ouvre. Alors, il faut bien dire que cet hôtel Colbert de Villasserre, personnellement, je ne l'aime pas beaucoup. C'est cette énorme bâtisse qui fait pratiquement l'angle de la rue de Turenne et de la rue des Frambourgeois. Et c'est une construction qui date de 1650. Il a été construit par le dénommé Édouard Colbert de Villasserre, qui était le fils de Jean-Baptiste Colbert. Ça doit vous dire à peu près quelque chose. Colbert, vous savez, c'était l'homme qui se frottait les mains dès qu'il avait du travail et qui était ministre de Louis XIV. Et ce fils, Édouard Colbert, avait eu l'excellente idée d'épouser Claude Le Tellier, sœur de Michel Le Tellier, plus connu sous le nom de Louvois. Ainsi, les deux ministres Louis XIV se trouvaient réunis dans un beau coup. Passe-moi ta fille, je te passe sa dot, et passe-moi ton fils, je te passe ma fortune. Et ils ont fait construire à cet endroit-là, en l'achetant fort cher au couvent Sainte-Catherine du Val-des-Écoliers, un hôtel dont on ne connaît pas malheureusement l'architecte. Ce qui est sûr, et ça c'est tout à fait personnel, c'est que cet hôtel, si vous le regardez bien, est très fortement imité de l'ordre colossal qu'on trouve à l'hôtel de la Moignon, ou que l'on trouve dans certains châteaux de la Loire au tout début du XVIIe siècle. Il n'y a pas très longtemps qu'on sait qui était l'architecte de l'hôtel de la Moignon. C'est Mezzo, l'auteur des digues de La Rochelle contre les protestants, qui était un ingénieur beaucoup plus qu'un architecte. Et je pense que l'hôtel Colbert de Villasserre souffre du même mal, c'est-à-dire qu'il n'a pas été construit réellement par un architecte, mais par un ingénieur. On le sent très bien par la maladresse. D'une part, l'ordre colossal est très beau lorsqu'il est uni, lorsque les colonnes ou les pilastres partent du haut pour arriver du bas pour arriver jusqu'en haut. Là, malheureusement, un linteau au beau milieu le coupe à hauteur du haut du premier étage. Et vous avez une deuxième série. Vous avez l'impression que vous avez deux bâtiments qui ont été surélevés l'un à l'autre. Deuxième maladresse, c'est probablement le grand fronton qui est au milieu est relativement réussi, beaucoup trop haut malheureusement, par rapport aux lucarnes qui sont en dessous, et les deux frontons de chaque côté n'ont jamais été achevés. Et ça donne un très curieux air à l'hôtel. Et puis alors, troisième maladresse, commencée en 1931, on a surélevé le toit de trois étages, pas moins, on a réussi à faire dans les combles, vous verrez, il y a trois étages dans les combles, et alors ça n'a plus l'air du tout d'un hôtel, ça a l'air de la tour Montparnasse rapetissée. En plus, actuellement, on a reconstruit deux bâtiments devant qui dissimulent une grande partie de la façade. Quant à la fontaine qui est au centre de la cour et que l'on dit être la fontaine d'Henri IV, je vous signale qu'elle a été construite en 1881. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. En fait, la partie la plus intéressante, c'est celle qu'on ne voit plus depuis fort longtemps. C'est la façade qui se trouve sur le jardin et qui a un très bel escalier à double révolution avec une superbe rampe en fer forgé du début du XVIIe siècle, qui est probablement antérieure à l'hôtel. Alors ça aussi, c'est l'escalier Henri IV. Je vous signale que les maisons d'Henri IV et de Gabriel d'Estrées dans Paris, il y en a des centaines. C'est à croire qu'ils ont, excusez-moi l'expression, ils ont dû coucher dans toutes les maisons de Paris. Il y en a partout. Et la plupart ne sont pas antérieures à 1650, époque où le ver galant regardait depuis fort longtemps, nous regardait depuis le ciel, et époque où la belle Gabrielle elle-même était morte, excusez-moi l'expression, mais de la petite vérole. Donc, ces maisons n'ont jamais pu abriter les amours du ver galant. Alors, ce qui est de plus beau, en fait, dans l'hôtel Colbert de Villasserre, c'est ce qui n'y est plus, c'est-à-dire les boiseries qui ont été déposées, fort heureusement, dans l'hôtel Carnavalet. C'est un cabinet qui avait été peint par Simon Vouet, ce qui déjà est une preuve de qualité, et c'est un cabinet tout à fait à l'imitation de celui que vous trouvez à l'Arsenal, le cabinet de Madame Lameilleraie. Seulement, personnellement, j'ai vu les deux, et je peux vous dire que personnellement, je trouve celui qui est maintenant déposé à l'hôtel de Carnavalet est beaucoup plus joli, d'abord parce que les dessins des décors floraux, les poutis et les rinceaux sont beaucoup plus fins, les couleurs en sont beaucoup moins marquées, elles sont beaucoup plus passionnantes, des teintes beaucoup plus pastelles, et puis surtout, dans l'Arsenal, vous verrez, chaque dessus de porte, chaque entourage de fenêtre est soigneusement marqué d'une couleur beaucoup plus foncée, alors que si vous allez à l'hôtel Carnavalet, vous verrez que Simon Vouet, lui, a parfaitement su à peine marquer du nombre le bord des fenêtres ou le tour des portes, ce qui en fait toute la valeur. Et c'est tout à fait dommage que ces boiseries ne puissent, je pense qu'elles ne seront jamais remontées, c'est tout à fait dommage que l'on remonte des boiseries dans des musées alors qu'elles devraient rester à l'endroit où elles étaient. Enfin, ça, c'est un autre problème de muséographie sur lequel il faudrait revenir. Je vous signale qu'il y a à l'intérieur quand même de l'hôtel Colbert de Villasserre, à moins, je n'y suis pas allé depuis fort longtemps, j'y suis allé au moment où on faisait les travaux, je n'y suis plus retourné, à moins qu'on les fait disparaître, il y avait une très belle cheminée qui se trouvait à l'intérieur avec une très belle plaque de cheminée. Je vous signale qu'il y a à l'intérieur quand même de l'hôtel Colbert de Villasserre, à moins, je n'y suis pas allé depuis fort longtemps, j'y suis allé au moment où on faisait les travaux, je n'y suis plus retourné, à moins qu'on les fait disparaître, il y avait une très belle cheminée qui se trouvait à l'intérieur avec une très belle plaque de cheminée datant probablement du début du XVIIe siècle. Je pense qu'elle y est encore au premier étage. Alors, donc toute la partie orientale de la rue de Turenne, de cette première partie de la rue de Turenne, je vous l'ai dit, actuellement, manque pratiquement d'intérêt, à part quelques immeubles du début du XIXe siècle qui ne sont pas trop vilains, enfin, où nos yeux s'y sont plutôt habitués, qu'on y a pris réellement goût. Et la seule partie vraiment intéressante, en dehors de quelques immeubles du XVIIe siècle qui sont malgré tout que des immeubles de rapport, il ne faut pas confondre sociologie et esthétique, et ce n'est pas parce qu'un immeuble est du XVIIe siècle qu'il est forcément beau, et ceux du début de la rue Turenne n'offrent rien de bien particulier. En dehors donc de cet hôtel Colbert de Villasserre, cette première partie n'offre pas grand-chose d'intéressant. Je voulais simplement vous signaler qu'il y avait jusqu'au début du XIXe siècle, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, à côté de l'hôtel Colbert de Villasserre, une petite impasse qui s'appelait l'impasse de l'Écharpe et qui était très mal fréquentée. Il y avait là une maison qui fut plus connue plus tard par la lanterne rouge que l'on trouvait sur la façade, au-dessus de la porte. Et cette petite ruelle de l'Écharpe a laissé son nom à un cabaret qui lui a succédé, et actuellement il existe encore d'ailleurs un restaurant de l'Écharpe un peu plus loin, qui se trouve dans une maison qui doit dater à peu près de l'époque de ce cabaret de l'Écharpe, qui a perduré jusque vers 1850. La seconde partie de la rue de Turenne, plus tardive dans son aménagement, date en gros du règne d'Henri IV, alors que là, la première partie, elle, était un peu antérieure, probablement dès la fin du XVIe siècle, on avait commencé à aménager. Et elle a sa raison d'être, non pas par une évolution tout à fait naturelle de la ville s'étend au fur et à mesure que sa population s'étend, mais là, elle provient de la spéculation foncière et uniquement de la spéculation foncière. Je veux dire par là que Henri IV a non seulement été l'inventeur de la poule au pot, mais a été aussi l'inventeur de l'urbanisme excusez-moi l'expression, mais elle est pourtant tout à fait de mise, là, l'urbanisme dictatorial, celui qui vient d'en haut. Ça n'est pas l'urbanisme que les gens se font peu à peu au fur et à mesure des voies, c'est l'urbanisme soigneusement venu d'en haut. Et entre autres, d'un dénommé Sully, dont vous avez dû entendre parler, et qui était, outre un excellent homme qui savait que pâturage et labourage, etc., mais qui savait aussi que l'intérêt de l'État passait parfois par son propre intérêt. Et c'est moins connu, mais il a fallu plus d'une fois qu'Henri IV défende son ministre parce qu'il confondait la spéculation foncière de l'État avec sa propre spéculation foncière. Donc, Henri IV, ayant décidé d'ouvrir la place des Vosges d'un côté, qui fut finalement ouverte, mais chose beaucoup moins connue, qui était une place destinée à être une promenade, certes avec des hôtels destinés à des hommes de robe ou des hommes d'argent, mais aussi à avoir sur son côté nord une grande manufacture de tapisserie qui a même fonctionné pendant un moment, les 7 premières années de la place des Vosges. Il y a eu sur la façade nord de la place une grande manufacture de tapisserie. Malheureusement, comme tout ce qui vient d'en haut, ça ne marche pas toujours bien, et il a fallu renoncer à la manufacture de tapisserie qui mangeait beaucoup plus d'argent qu'elle n'en rapportait, et construire, fort heureusement pour l'œil, les bâtiments au nord de la place des Vosges, qui forment un des plus beaux ensembles actuellement de Parisiens, même si, quand on regarde de près, la construction en est fort médiocre, enfin, du moins l'appareil architectural en est des plus médiocres. Henri IV avait donc fait construire la place des Vosges à partir de 1605 et envisageait une deuxième place un peu plus au nord, le long de l'ancien rempart de Charles V, la place de France. Et cette place de France, elle a été projetée en 1609, elle est connue par une gravure de Claude de Châtillon, dans le recueil de Châtillon on en a une très belle gravure, et cette place de France, en fait, c'était un vaste hémicycle que l'on envisageait de construire avec des maisons toutes pareilles, un peu comme la place Dauphine, mais qui s'ouvrait sur le rempart, et c'est en hémicycle, et qui s'ouvrait à peu près à l'emplacement actuel du croisement des rues Froissart, du Pont aux Choux et de Comines, vous voyez, relativement à peu près au métro Fille du Calvaire actuel. Et on en a des vestiges dans le nom des rues encore actuelles, la rue de Saint-Onge, la rue de Poitou, la rue de Normandie, la rue de Bretagne, puisque cette place devait s'ouvrir en étoile par des rues qui prenaient toutes les noms de provinces de France, et par une seule rue qui a été réellement percée, c'est l'actuelle rue de Bellem, qui forme un arc de cercle encore. Elle devait, vous aviez la place, vous aviez une première rangée de maisons, et il devait y avoir la rue de Bellem derrière, qui fermait la deuxième rangée de maisons. Et c'est le seul vestige qu'on en ait. Vous savez que toutes ces œuvres d'urbanisme prévues par Henri IV ont été arrêtées par la main de Ravaillac, le doigt de Dieu se trouve toujours quelque part, et à la suite des projets royaux, on avait commencé à envisager de la spéculation foncière, et puisque le roi envisageait d'aménager des bâtiments par là, donc d'y loger des gens de sa suite ou des gens qui avaient du bien, les religieux de l'ordre des hospitaliers de Jérusalem, ce qu'on appelait encore les Templiers, les religieuses des hospitalières Saint-Anastase, qui n'étaient pas très loin, qui avaient des terrains dans le coin, et les hospitalières Saint-Gervais se sont dit, mon Dieu, il y a de la spéculation dans l'air, nous-mêmes, nous ne sommes pas très forts dans ce domaine-là, mais voyons un peu auprès des gens de finance s'ils ne pourraient pas nous arranger quelque chose. Et les religieuses, entre autres des hospitalières Saint-Gervais, possédaient des terrains le long du chemin de l'égout, vous savez, ce qui allait devenir la rue de Saint-Louis. Elles possédaient 6 arpents, et elles ont commencé par percer des rues, ça était ma ligne, elles ont compris que pour aménager un terrain, il fallait d'abord percer des rues, et elles ont fait percer plusieurs rues, dont les rues, je suis en train de chercher, la rue de Torigny, la rue Saint-Anastase, la rue du Roi Adoré, et la première partie de la rue Bellem, ça a été ouvert par les religieuses de Saint-Gervais, les hospitalières Saint-Gervais. Sur le côté oriental de l'égout, les hospitalières possédaient depuis 1342 un terrain qu'elles avaient acquis des Templiers et qu'elles louaient à des maraîchers. Elles se sont dit pourquoi des maraîchers quand des gens pourraient construire là-dessus, ça nous rapporterait beaucoup plus. Elles ont fait appel à un très important manieur d'argent qui s'appelait Marchand, comme quoi, là encore, le doigt de Dieu se retrouve toujours quelque part. Ce dénommé Marchand avait fait construire d'ailleurs un pont entre l'île de la Cité et la rive droite, le pont Marchand, qui est devenu par plus tard le pont au Change. Et Marchand leur a racheté en 1605 à bail amphithéotique tous ces terrains, mais à vrai dire, accusés de concussion, certainement pas à tort d'ailleurs, il n'a pu lui-même mener à bien le lotissement des terrains. Et c'est son petit-neveu, le président du Parlement Leget, qui, par arrêt du Parlement, comme c'est bizarre, a obtenu le 20 octobre 1634 des trésoriers de France l'alignement sur la rue Saint-Louis et une rectitude et la largeur uniforme de toute la rue qui desservait donc la partie orientale de ces terrains, ce qui lui permettait de construire tout le long de la rue. Lui-même n'avait pas tout à fait les moyens de construire. Ça se situe environ entre le numéro, ça se situe exactement entre l'actuel numéro 60, actuel de la rue Turenne, et le numéro 70 de la rue Turenne. Vous voyez, ça fait un très beau terrain qui se prolongeait au-delà jusqu'aux boulevards actuels. Leget n'avait pas les moyens, lui-même n'était pas un banquier, n'avait pas les moyens de construire. Alors il s'est associé avec Dublet, qui était membre du Parlement, qui avait des appuis, et un certain Villedot, du nom de la rue Villedot, qui a donné son nom à la rue Villedot actuelle, qui lui était entrepreneur en bâtiment et en maçonnerie, et qui avait déjà fait une solide fortune en construisant des hôtels autour de la rue de Richelieu. Dublet et Villedot ont accepté de prendre une partie des terrains et en compensation, ils recevaient une partie des terrains, ils construisaient un certain nombre d'hôtels, dont les 60 à 70 rue de Turenne, et beaucoup plus amusant, tous les hôtels de la rue qui se trouvaient, qui ont disparu maintenant, sur la rue Villard-Ouen, ils construisaient 12 hôtels identiques, d'où l'ancien nom de la rue Villard-Ouen qui s'appelait la rue des 12 portes, parce que vous aviez à cet endroit-là 12 hôtels parfaitement identiques. Il en reste actuellement les vestiges de 2 ou 3, c'est absolument tout. Et la vente des terrains a commencé en 1636 par l'actuel numéro 60, le plus important vestige actuel, et les autres, les numéros 62 à 68, 68 bis, se sont vendus entre 1637 et 1640. Alors, le plus important, c'est le numéro 60, parce que c'est actuellement, je crois, avec l'hôtel où nous sommes, le plus bel hôtel de la rue de Turenne. C'est l'hôtel dit faussement du Grand Veneur, qui est en réalité l'hôtel des Clilly. C'est une dénommée Alphonsine de Balzac, veuve de Charles de Martel, qui avait acheté en 1637 les terrains. La dénommée Alphonsine, n'ayant pas le sens des affaires, a revendu à perte sa propriété en 1643 à Louis d'Alongny, marquis de Rochefort, qui lui a eu l'excellente idée de racheter des parcelles qui se trouvaient derrière, d'un certain hôtel de Champrincy, et à tour de tout revendre à Claude de Guénégaud, qui est très trésorier de l'épargne, vous voyez, on retrouve toujours des gens de finance, qui a fait bâtir son hôtel. Alors, ce Claude de Guénégaud, c'est un très curieux personnage qui a fait beaucoup d'argent avec Fouquet et qui, lorsque Fouquet a été mis en disgrâce, n'a pas échappé à la disgrâce à son tour. Il a été embastillé, il y est d'ailleurs resté assez longtemps. Il a été condamné à la restitution de 5 millions, ce qu'il n'avait plus à l'époque puisqu'il avait fait construire son hôtel, puisqu'il avait tout dépensé. Et après 15 ans de procès, il a dû abandonner en 1681 la plupart de ses biens à ses créanciers. Son hôtel de la rue Saint-Louis avait été en partie détruit par un incendie, fut racheté en 1686 par le chancelier Boucherat, un trésorier de l'épargne remplacé par un chancelier, et c'est le chancelier Boucherat qui a fait aménager l'actuel hôtel du 60 de la rue Turenne, cet hôtel du Grand Veneur, et c'est ce chancelier Boucherat qui a fait de l'hôtel, qui lui a donné toute la pompe. Il y a d'ailleurs reçu, outre Turenne, outre les grands ministres de l'époque, il y a aussi beaucoup reçu des gens de lettres, entre autres Madame de Sévigné et plus tard Scarron, qui ont été parmi les hôtes de Boucherat. Boucherat était un homme de très grande culture. Il a fait reconstruire l'hôtel de Claude de Guénégaud, qu'il a laissé après sa mort en 1699 à sa fille Madame de Harlay. Vous savez que les Harlay tenaient en grande partie le Parlement de Paris, se sont succédés comme président au Parlement de Paris pendant fort longtemps. Celle-ci a loué la maison au chancelier Charles Voisin, et puis s'est passée par partage à Vincent Hennequin d'Ecquevilly, dont la famille possédait depuis Louis XIII la charge de capitaine général de la vénerie du roi et de l'équipage du sanglier. Et c'est son fils Louis Hennequin d'Ecquevilly qui, ayant reçu l'hôtel de son père, a fait mettre sous les balcons actuels de l'hôtel toutes ses têtes de cerf et tous ses symboles de la vénerie. Et en fait, on a appelé ça l'hôtel du Grand Veneur. Je vous signale que la charge de Grand Veneur n'avait absolument rien à voir avec la charge de capitaine général de la vénerie du roi, qui se trouvait légèrement en dessous de la charge de Grand Veneur. Alors c'est tout à fait improprement qu'on appelle ça l'hôtel du Grand Veneur. En 1792, les Écuvilly, qui sentaient que les choses tournaient mal, ont émigré, ont réussi à vendre leur hôtel à Louis-Philippe Potin, qui était comte de Vauvineux. Celui-ci a eu le malheur de ne pas sentir le vent venir et d'être raccourci. Et l'hôtel, confisqué comme bien national, a été loué d'abord à diverses personnes, puis aux dames franciscaines de Sainte-Élisabeth, qui l'ont acheté en 1823 et qui sont demeurées jusqu'en 1903. Elles y avaient installé une chapelle, des dortoirs, et il faut bien dire, vous verrez tout à l'heure quelques images du 19e siècle de cet hôtel des Cuisy, elles l'ont soigneusement transformé. Et vous savez que depuis 1901, cet hôtel appartient à des magasins connus pour être réunis, et il est encore, quand on entre dans la cour, on a la façade, ce qui n'est pas une cour puisque c'est un grand hangar en fait, et qui dissimule la façade sur l'extérieur, mais la façade sur le jardin est restée en très bon état. Et on a fort heureusement soigné une grande partie, enfin retrouvé une grande partie des boiseries qui ornaient cet hôtel et de la sculpture. Je crois que c'est actuellement, s'il était entièrement restauré, malheureusement, il y a sur la façade un grand panneau sur lequel d'ailleurs est écrit l'en-tête du magasin, qui n'est pas du meilleur goût. Une fois restauré, je crois que ce serait d'abord un des hôtels les plus faciles à restaurer dans le Marais, et ce serait vraiment une grande œuvre si la ville de Paris ou l'État réussissait à racheter ça, et ce serait un de ceux dans lesquels il n'y aurait pas à faire comme on l'a fait dans d'autres, qu'on l'a pratiquement abattu sous prétexte de les restaurer avant de les reconstruire tels quels pour y aménager des bureaux pour des administrations. D'ailleurs, ça, c'est un des grands malheurs de ce quartier, c'est de devenir un quartier totalement administratif. À côté du 60, le 62, l'hôtel des franciscaines de Sainte-Élisabeth, qui, comme elle l'avait fait dans l'hôtel voisin, y ont aménagé des salles, des dortoirs, des laboratoires, tout ce qu'on voulait, et cet hôtel a été entièrement défiguré. Actuellement, il est dissimulé sur la rue par un immeuble locatif qui a été construit environ vers 1845, puisque les franciscaines sont parties en 1844, l'hôtel immédiatement vendu, la façade qui se trouvait, enfin le portail et les bâtiments qui se trouvaient sur la rue, dont on a d'ailleurs de très belles descriptions, ont été abattus pour construire le gros immeuble locatif du 62 rue de Turenne. Et si on regarde bien dans la cour, ça a été entièrement rehaussé, mais on retrouve à peu près les motifs du XVIIe siècle. Il existe la façade sur le jardin qui n'a pas été abîmée, mais qui malheureusement est coincée à 2 mètres par les immeubles qui se trouvent dans la rue derrière. Ce qui fait que cette façade, il faut vraiment avoir beaucoup d'imagination pour la retrouver. Avant la construction des immeubles qui se trouvaient derrière, on en a des photos en 1901 qui ont été prises par la commission du Vieux Paris, où on voit que la façade, en dehors de la surélévation, la façade sur le jardin était encore bonne. Je ne sais pas actuellement où on en est, et c'est assez difficile de pénétrer dans l'immeuble. À côté de ça, l'hôtel de Paumy numéro 64, lui, qui faisait partie donc du même lotissement, a été complètement défiguré, et à part quelques éléments architecturaux, dont la porte sur l'extérieur et un escalier à l'intérieur, il faut bien dire qu'il n'en reste plus rien. En revanche, l'hôtel Boulin au 66-68, il y a un immeuble devant au 66-68, vous entrez dans la cour et vous retrouvez alors là l'hôtel parfaitement intact et la façade sur le jardin, quoi qu'on ait construit un hangar devant, si vous allez, il serait très facile simplement de démolir le hangar et retrouver le jardin qui en plus est relativement étendu pour retrouver l'hôtel tel qu'il était au XVIIe siècle, et il a été construit environ 1640. On ne sait pas très bien par qui, là, mais l'hôtel de Boulin, 66-68, lui serait tout à fait récupérable. Et nous arrivons à l'actuel 68 bis rue de Turenne, qui est très important parce que c'est l'hôtel qui a donné son nom à la rue, c'est l'hôtel de Turenne. Alors la particularité de cet hôtel, c'est que le terrain était le plus vaste, de très loin, le plus vaste de tous ceux qui ont été lotis, au 68 bis rue de Turenne. Il était large de 17 toises sur 36, et il s'étendait à l'angle de la rue Neuve-Saint-Louis, c'est-à-dire de l'actuelle rue de Turenne et de la rue Saint-Claude, pratiquement jusqu'au boulevard. C'était donc un immense terrain qui, en plus, s'est accru au fur et à mesure que le maréchal de Turenne faisait des héritages ou, grâce à ses relations, pouvait acquérir des terrains. Il a eu un des jardins, avec le chancelier Bouchera, un des jardins les plus importants de Paris du temps où il y a habité. C'est donc toujours le même système, c'est-à-dire le jet s'est allié à Villedot, Villedot a fait construire l'hôtel et s'est passé de main en main jusqu'à ce que, à travers toujours la famille de Guénégaud, Turenne finisse par faire l'acquisition, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, en 1661 de l'hôtel. Et je vous signale que rien que pour cet hôtel, Turenne avait obtenu la concession par la ville de Paris de 8 canalisations d'eau, ce qui était énorme quand vous pensez que pour toutes les fontaines de Paris en 1661, il y avait en tout 16 canalisations d'eau. Donc vous imaginez, 8 rien que pour l'hôtel de Turenne, ça donne une idée de l'ampleur des bâtiments et du monde qui avait besoin d'eau à l'intérieur de ça. Il faut bien dire que Turenne n'a pas habité longtemps là-dedans en raison des services rendus à la patrie. Le roi lui avait cédé l'hôtel d'Emery rue des Petits Champs et qui avait été saisi sur Fouquet. On retrouve toujours les mêmes personnes, vous voyez. Et Turenne, finalement, n'est jamais revenu dans l'hôtel de Turenne. Lorsqu'il fut tué en 1675, il avait loué son hôtel au duc de Bouillon. Et puis, peu à peu, ça a été divisé et tout ça est arrivé jusqu'en 1684 à la duchesse d'Aiguillon, qui était une descendante de Turenne, qui, elle, l'a donné aux filles bénédictines du Saint-Sacrement de la rue Cassette. Elle leur a donné l'hôtel et les terrains et les filles bénédictines du Saint-Sacrement y ont installé leur couvent, une chapelle qu'elles ont aménagée dans une partie de l'hôtel. Elles ont démoli une partie de l'ancien hôtel de Turenne qui, au vu de ce que nous en avons, devait être un des plus beaux hôtels du Marais. On voit d'assez jolies gravures et d'assez jolis dessins qui ont été faits au début du XIXe siècle, des aménagements faits par les filles du Saint-Sacrement. Et peu à peu, l'hôtel a été morcelé, ou les terrains ont été morcelés, revendus. Les filles du Saint-Sacrement, qui avaient été saisies à la Révolution, leurs biens saisis à la Révolution, ont été remplacés par des franciscaines. Les franciscaines, à leur tour, ont fait des aménagements dans les bâtiments. Et en 1826, on a détruit définitivement ce qui restait de l'hôtel. Et en 1835, la ville de Paris a racheté ce qui restait des terrains, ce qui restait des bâtiments. On a tout rasé et on a construit dessus l'église Saint-Denis du Saint-Sacrement, œuvre de Gode, architecte. Je vous signale que Saint-Denis du Saint-Sacrement est une église tout à fait dans ce qu'on appelle le style néoclassique, qui a été très à la mode. C'est une des toutes premières, d'ailleurs, églises néoclassiques. C'est en tous les cas, pour son aménagement intérieur, une des plus remarquables de ce qu'on appelle aussi le style néo-romain. Vous entrez là-dedans, vous avez l'impression de vous trouver dans un temple romain. Et en fait, ça a été vilipendé pendant assez longtemps, ce style. En fait, mon Dieu, ce n'est pas plus laid que certains bâtiments modernes que l'on voit, ou alors nos yeux s'y sont habitués. Personnellement, pendant longtemps, j'ai cru que c'était une banque, et on découvre peu à peu que c'est une église, et on y va surtout pour voir à l'intérieur, dans une des chapelles latérales, la fameuse Pietà de Delacroix, qui s'y trouve toujours, qui malheureusement est très mal éclairée. On la voit relativement mal, et surtout les couleurs ressortent très mal à cause d'un éclairage totalement latéral. Bon, en dehors de ça, l'église Saint-Denis du Saint-Sacrement n'offre rien de bien extraordinaire. Enfin, nous terminerons cette vue d'ensemble un peu de la rue Turenne. Je vous avais bien dit, je ne vous ferai pas un descriptif de tous les hôtels qui se trouvent dedans. Je préfère que vous compreniez qu'il y a eu en fait là la jonction de deux rues qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre, l'une s'étendant par la simple extension de la population et l'autre étant le fruit d'une spéculation foncière venue de l'autorité royale, parfaite après les aménagements faits par les Templiers. Vous avez donc deux autorités qui, l'une après l'autre, décident de ce que vont être des terrains, alors que du côté méridional, on s'avance simplement parce qu'on a besoin de s'étendre. Alors, simplement, vous parlez de deux maisons pour terminer. D'abord, le 56, parce qu'une certaine Madame de Maintenon, qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps à cause de certains livres, y a habité. Elle y a habité avec le poète Scarron. Vous savez que Madame de Maintenon avait pendant longtemps cherché mari. Elle avait du mal à se marier parce qu'elle avait de mauvais antécédents. Ce n'était pas sa faute si elle était née en prison et si son père avait des dettes de jeu et si sa mère avait eu quelqu'un contre. Elle-même, ayant eu du mal à se marier, avait épousé le poète Scarron, et qui n'avait pas beaucoup de chance non plus. Il avait une maladie tout à fait particulière, des rhumatismes, qui l'avait rendu complètement difforme. Il était parfaitement bossu, il ne pouvait pas se servir de ses mains, mais comme il était très amusant, qu'il avait beaucoup d'humour, il avait demandé à épouser une jeune fille qui soit mal née, afin qu'elle puisse l'enterrer et lui rendre les derniers sacrements, puis d'un autre côté, égayé par sa conversation, ses vieux jours. Scarron, d'ailleurs, avait d'autres particularités. Il avait fait construire dans cette maison du 56, dans sa salle à manger, tout un petit système de poulies qui lui permettait de pouvoir manger. Alors, avec sa main valide, il arrivait à soulever son autre main et il pouvait attraper ainsi ce qu'il y avait dans son assiette. C'était un système tout à fait ingénieux. Les Scarron, mari et femme, habitaient donc dans cette maison. Et ce qui est tout à fait curieux, c'est que l'inventaire après décès de Scarron montre que la maison n'a absolument pas changé. On l'a, et quand vous allez voir la maison avec l'inventaire en main, vous voyez que la disposition des pièces n'a absolument pas changé. C'est une des maisons qui n'ont pas du tout été transformées. Probablement parce que ça n'était pas une très belle maison, c'est simplement une petite dépendance. Alors, on voit un corridor étroit qui conduit à une petite courette, laissant à gauche des boutiques qui autrefois formaient les écuries, la remise et les cuisines. Au premier étage, l'appartement de Madame Scarron. Au second étage, la salle d'assemblée. C'est là que Scarron recevait pour dîner, puisqu'il aimait beaucoup recevoir pour dîner, et que c'est là que Madame de Maintenon a fait son éducation, si j'ose dire. À côté, la petite chambre où est mort Scarron, et derrière, quelques pièces qui servaient à la garde-robe et au logement des domestiques. Je vous signale que dans cette maison, mais je crois que c'est indiqué sur la plaque qui est dessus, il n'y a pas eu que Scarron qui a habité, puisqu'il y a eu aussi le sage, et on dit que Crébillon, père, est mort dans cette maison aussi. Ce qui fait que malgré tout, c'est une maison, je n'oserais pas dire bien née, mais ou du moins on meurt bien. Enfin, on meurt quand on a une bonne réputation. Et puis enfin, pour terminer, la maison où nous sommes, ce 54 rue Turenne. Ce 54 rue Turenne qui est une maison, elle, dont une partie est du XVIIe siècle et dont probablement la partie où nous sommes aujourd'hui est beaucoup plus récente. La façade sur la rue n'a pas grand-chose à voir avec les maisons du XVIIe siècle. D'ailleurs, ça se voit tout de suite, elle est beaucoup plus fine, elle est beaucoup plus joyeuse, presque comme elle n'a pas la sévérité des hôtels du XVIIe siècle. Elle est relativement plus variée dans sa façade et, à mon avis, c'est ce qui en fait tout le prix. D'abord, elle n'a pas cette haute toiture qui souvent domine d'un peu trop ces hôtels qui les rendent très sévères. Elle a une toiture à toit beaucoup plus plat. Et cet hôtel, dont une partie se trouve de l'autre côté, là où il y a l'école actuellement, cet hôtel, c'était d'ailleurs cette première partie qui a existé d'abord, était habité, on ne sait pas par qui ça a été construit, au XVIIe siècle jusqu'en 1663 par Claude de Bourdeil, comte de Montrésor, qui fut impliqué dans la Fronde et qui avait été obligé de se réfugier un petit peu en dehors de Paris pendant quelque temps pour se faire oublier. Il avait comploté avec Gaston d'Orléans, dont il fut longtemps le favori, ce qui nous laisse à penser que ses mœurs étaient les plus douteuses. Et puis, par la suite, il a été obligé aussi de s'exiler en Angleterre. Il est revenu à la mort du cardinal de Mazarin, et puis il a été mis à la Bastille, et enfin il a terminé au donjon de Vincennes. En fait, c'était un homme finalement qui a eu une vie relativement agitée et qui n'a pas pu longtemps profiter de la maison de la Grande Cour qui se trouve à côté de nous. Je vous signale qu'il a laissé des mémoires relativement intéressantes parce qu'il y décrit toute la Fronde. Il avait été, entre autres, l'amant, donc je vous l'ai dit, de Gaston d'Orléans et aussi de Mademoiselle de Guise. C'était une époque où l'on était volage. L'hôtel a appartenu par la suite à Jérôme Machaut, qui était président au Parlement, qui l'a vendu à Abel de Sainte-Marthe, un des deux frères de Sainte-Marthe, comme quoi pour en être saint homme, on n'en est pas moins homme de finance. Et ensuite, il a appartenu à Doublet, dont je vous parlais tout à l'heure, qui avec Villedot avait construit une partie du quartier, et puis à l'intendant de Gourgues, qui y a habité à partir de 1707, et la famille de Gourgues a occupé l'hôtel ici, et ce sont eux probablement qui ont fait construire ce que nous appelons l'hôtel de Montrésor, avec cette façade, et ils l'ont habité jusqu'en 1794, où le dernier des Gourgues a été décapité, cause de révolution. Par la suite, cet hôtel est passé entre les mains de divers propriétaires. Il a été divisé en appartements. On s'en rend compte à la taille de certaines pièces. Il suffit de se promener un petit peu. On voit très bien que ça a été divisé au XIXe siècle. Pas mal d'aménagements sont du XIXe. Et en 1881, la ville de Paris a racheté cet hôtel et y a installé d'une part une école et d'autre part divers services. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là que la bibliothèque a pu s'installer dans l'hôtel de Montrésor. En fait, je pense que ce qu'il y a de plus joli dans cet hôtel, d'abord outre la façade, c'est aussi la très belle disposition à l'extérieur des étages. Il n'y a pas, c'est justement c'est, comme il y a dans ces hôtels du XVIIe siècle, un rez-de-chaussée relativement bas qui est surhaussé par un premier étage noble très haut. Au contraire, les étages ont une très belle proportion. Et je pense qu'il est un petit peu dommage, mais je crois que les travaux commenceront bientôt, que la façade de l'hôtel au moins ne soit pas restaurée dans son ensemble. Voilà à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur la rue de Turenne. Je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout spécialiste ni d'architecture, encore moins des hôtels de Paris, ne sachant pas lire les minutes notariales. C'est le seul moyen pour étudier réellement les hôtels de Paris. Ce que je voulais vous montrer, c'est simplement des principes d'urbanisme et comment, au fond, à peu près tout ce quartier dit actuellement du Marais est formé de deux choses totalement différentes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et c'est ce qui explique, entre autres, que vous avez, de la même façon, au début de la rue du Temple, une rue qui a été bien modifiée par le 19e siècle, mais qui était tout à fait sinueuse en son début, alors qu'elle devient parfaitement droite à la fin. La rue Vieille du Temple, de la même façon, est tout à fait sinueuse entre l'Hôtel de Ville et la rue des Francs-Bourgeois, et ensuite, elle va pratiquement tout droit jusqu'au bout. Vous avez une œuvre urbaniste qui s'est faite toute seule, entre de ce qui est l'actuel 4e arrondissement, alors que le 3e arrondissement, qui est pourtant le même quartier du Marais, lui, est une œuvre complètement d'urbanisme artificiel du 17e siècle. Alors, je vais vous montrer en vitesse quelques photos. Alors, vous allez être obligé de vous tourner. Ça, c'est très partie du plaisir de vous tourner pour voir les photos. Bon, je vous sais que j'en ai très peu à montrer, parce que comme je les ai ratées soigneusement... Alors, vous avez ici le plus ancien plan de Paris... le plan dit de Truchet et Hoyot qui montre l'état de Paris en 1530. Vous savez, on n'a pas de représentation générale de Paris avant 1530. Il existait à l'hôtel de ville de Paris une tapisserie, une immense tapisserie qui avait été faite probablement sous l'ordre d'Henri III, qui représentait l'ensemble de Paris d'après des cartons plus anciens. Cette tapisserie a malheureusement disparu au XVIIe siècle. On sait qu'on la montrait lors des grandes processions. Et cette tapisserie a disparu au moment de la Révolution française. Elle avait été copiée au XVIIIe siècle sous forme de gouache, entièrement gouachée. Et on pense que c'est à partir de cette gouache qu'a été fait le plan de Truchet et Hoyot, dit plan de Bâle parce qu'il a été retrouvé en 1880 et quelques dans la bibliothèque de Bâle. Et ce plan de Bâle est actuellement le plus ancien plan de Paris, puisque le plan de la gouache, qui se trouvait à l'hôtel de ville en 1871, a brûlé malheureusement avec le reste de l'hôtel de ville. Vous avez là tout à fait en haut de la gravure, vous avez la limite de Paris, la limite construite de Paris. Vous voyez très bien, vous avez des terrains vagues. Or, la dernière rue, vous voyez la dernière rue tout à fait en haut, quand on a bonne vue, moi je le sais, j'ai mauvaise vue, mais je le sais par cœur, ça s'appelle la rue Sainte-Catherine, c'est l'actuelle rue de Sévigné. Au-delà de la rue de Sévigné, en 1550, il n'y a rien. Il y a juste le couvent de Sainte-Catherine du Val des Écoliers, c'est la seule bâtisse que l'on voit à ce moment-là, à l'est de la rue de Sévigné. Alors ici, vous voyez la même vue qui vous montre encore mieux que entre la rue de Sévigné et la Bastille, il y a juste le couvent de Sainte-Catherine du Val-des-Écoliers, quelques maisons le long de la rue Saint-Antoine, et puis entre la rue de Sévigné et le rempart, il n'y a rien, il y a juste des champs qui sont cultivés avec des petites fermes probablement. Et ça, c'est un phénomène qui a duré relativement longtemps. Au début du XVIIe siècle, ce qu'on appelait les marais du Temple, c'est-à-dire cette partie de la rue de Turenne, la partie qui va de la rue des Francs-Bourgeois jusqu'au bout de la rue de Turenne, c'était simplement des champs, c'était des maraîchers, c'était des petits cultivateurs qui étaient donc relativement tard jusqu'au début du XVIIe siècle. Alors, voilà, toute première fois où on voit sur un plan de Paris la rue de Turenne, c'est le plan de Gombousse. Vous avez la vue d'ensemble du plan. C'est un des premiers plans faits selon des relevés précis à Paris et non plus un plan fait simplement d'après des relevés tels qu'on pouvait les faire et avec des maisons représentées en élévation. Là, vous avez pour la première fois un plan qui vous montre en vertical ce qu'était Paris avec le tracé exact des rues. Alors, vous apercevez sur la partie orientale la tache blanche de la place des Vosges et tout le long, vous voyez la rue de Turenne dont la partie méridionale se rattache tant bien que mal à la rue Saint-Antoine. On voit bien qu'elle est beaucoup plus petite que la partie septentrionale. Alors ça, c'est la première fois qu'on voit mentionner la rue Saint-Louis au Marais et la rue de l'Égout sur un plan. Là encore, une autre version du plan de Gombouze. Alors là, il aurait fallu que je relève pour qu'on le voit mieux. Où vous voyez la rue, oui, vous voyez tout à fait en bas, alors là, la rue de l'Égout. Et puis, vous voyez l'énorme différence qu'il y a avec la rue Saint-Louis. La largeur au-delà de la place des Vosges, on voit l'énorme différence de largeur. Et en fait, dites-vous bien que si c'est représenté aussi petit sur un plan comme ça, c'est qu'effectivement, ça devait avoir, en gros, égout compris, 3 mètres au maximum de largeur. Ce qui donne une rue extrêmement étroite. Où on voit bien encore cette même disposition, la toute petite rue de l'Égout et la très large rue Saint-Louis-au-Marais. Avec, dans la rue Saint-Louis-au-Marais, vous voyez, là on est en 1660, on voit apparaître déjà quelques maisons, dont probablement l'hôtel du Grand Veneur, tout à fait, on voit une petite maison, une parcelle, l'hôtel du Grand Veneur, et ou l'hôtel de Turenne peut-être, qui se prolonge pratiquement jusqu'au rempart. Donc d'immenses propriétés avec de très grands jardins aménagés. Le reste de la rue étant pratiquement désert. Alors ça, c'est l'emplacement de Sainte-Catherine du Val-des-Écoliers. C'est en fait la place Sainte-Catherine actuelle, où il y avait un marché. Jusqu'en 1912, il y a eu un marché qui était en bois, et puis après qui avait été remplacé par un autre marché. J'ai oublié à peu près à quelle date. Alors c'était à cet emplacement exact que se trouvait l'église Sainte-Catherine du Val-des-Écoliers. Alors ça, c'est l'emplacement où se trouvait le temple, le marché du temple. Je vous ai dit que l'église, elle s'appelait, on a été en forme de rotonde. Or, très curieusement, au début du 19e siècle, on a construit à l'emplacement de l'église du temple ce qu'on a appelé la rotonde du temple, qui en fait était des immeubles de rapport en forme de rotonde, exactement, avec des arcades en dessous où se trouvaient des boutiques. Et vous voyez sur la droite l'ancien marché, le premier marché du temple, qui lui était un marché en bois, qui a été remplacé par la suite par le très joli marché en fer et en verre que l'on connaît aujourd'hui. Donc de l'ancien temple, il ne reste plus rien. Tout a été, enfin, les derniers vestiges ont été démolis en 1796 de l'ancien temple. Il y avait cependant encore l'hôtel du grand prieur du temple, qui était aussi beau que l'hôtel de Soubise, vous voyez là où il y a les archives nationales, qui était d'ailleurs exactement construit. L'hôtel de Soubise a été construit sur le modèle de l'hôtel du grand prieur du temple, qui avait été construit en 1767. Et cet hôtel a été habité par le grand prieur jusqu'à la Révolution. À la Révolution, il a été séquestré. On y a installé la poste, on y a installé une caserne de la garde nationale. Et malheureusement, l'ensemble des bâtiments, qui, je vous dis, étaient aussi beaux que les bâtiments de l'hôtel de Soubise, a été détruit par vandalisme en 1868. Là encore, c'est probablement une des plus grosses destructions qui a été faite dans Paris, alors que tout ça aurait pu être sauvé et soigneusement aménagé. Alors ça, c'est la vue du marché du Temple au XIXe siècle, avec derrière la fameuse rotonde du Temple. La place des Vosges, telle qu'elle l'était au milieu du XIXe siècle, c'est plus amusant à montrer que les vues du XVIIe siècle qui sont souvent extrêmement raides et qui représentent un idéal architectural, alors que là, vous avez plutôt quelque chose qui a été, au fur et à mesure, ça a été vu dans ces petites aquarelles du XIXe siècle. Alors, la place des Vosges, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment une opération d'urbanisme qui a été voulue décider, exactement comme la place Dauphine. La place Dauphine formait un ensemble. Et on était encore dans l'idée qu'une grande place devait être une place parfaitement fermée, alors que beaucoup de places italiennes déjà étaient des places ouvertes. L'idéal de la monarchie française au début du XVIIe siècle, c'est une place entièrement fermée, qui représente en même temps symboliquement le centralisme de la monarchie française, cette idée de centralisation. Et c'est au fond un décor complètement de théâtre où les gens viennent parader. Vous avez un jardin au milieu, vous avez des arcades, et les gens viennent entièrement parader. D'ailleurs, je vous dis, en 1607, on avait construit un atelier de fabrication de tapisseries qui a été démoli très rapidement. En 1610, pratiquement, il ne fonctionnait plus, il a été démoli. Et en 1611, on a commencé à construire les maisons qui bordent la façade nord de la place des Vosges. Et cette fameuse place de France dont je vous parlais tout à l'heure était aussi une de ces places idéales conçues telles quelles par l'autorité royale et par, non pas des architectes, mais beaucoup plus des ingénieurs. C'est l'époque où les ingénieurs commencent à le disputer aux architectes. Ils ont fini par gagner d'ailleurs actuellement. Je vous parlais de l'hôtel Colbert de Villasserre. Vous voyez comment il se présentait à l'époque où c'était un internat pour jeunes gens. C'est une affiche publicitaire pour que les jeunes gens aient une bonne éducation. Comme vous pouvez le voir, la perspective est complètement faussée, il n'y a jamais eu autant de terrain derrière. Ça vous donne l'impression d'une cour de récréation merveilleuse où les chers bambins pouvaient se défouler tout à leur aise. Alors ça, c'est une vue de 1880, à l'époque où je ne sais plus exactement quel, j'ai oublié le nom de la communauté religieuse qui avait qui avait l'hôtel Colbert. Par la suite, il y a eu une maison qui est restée célèbre pour vous apprendre à taper à la machine, qui est restée assez longtemps dans l'hôtel Colbert de Villasserre. Alors, vous voyez ce que je disais, cet ordre colossal, c'est très bien s'il n'y avait pas l'entablement au beau milieu, au-dessus du deuxième étage, qui coupe complètement et qui donne l'impression que ça a été faussement surélevé. Mais à l'époque, au moins, il n'y avait pas la surélévation de trois étages dans les combles. Alors, ça pouvait à peu près passer. Et je vous signale que l'hôtel a failli plusieurs fois être démoli et que même la commission du Vieux Paris et même la commission des monuments historiques ne prêchaient pas pour la sauvegarde de l'hôtel Colbert de Villasserre, qu'ils estimaient être un des échecs architecturaux du XVIIe siècle. Finalement, il a été sauvé, si l'on peut. Voilà la fameuse fontaine qui passe pour être dans les quatre et qui, je vous signale, date de 1880. Il n'y a pas très longtemps que je le sais, je l'ai découvert dans une revue d'architecture. Alors voilà d'ailleurs le relevé tel qu'il apparaît dans la revue d'architecture. On a le nom de l'architecte et tout. C'est un joli petit faux. Voilà l'hôtel tel qu'il se présentait en 1910, lorsque la commission du Vieux Paris a fait prendre les photos, les photographies. Voilà l'hôtel d'Écuilly, la façade sur le jardin, si je voudrais dire, puisque maintenant c'est une cour, avec les attributs, l'hôtel du Grand-Mère, avec les attributs de la famille d'Écuilly. Et surtout ce superbe balcon en fer forgé, probablement du début du XVIIIe siècle, lorsque la famille d'Écuilly a entièrement restauré l'hôtel. La partie intérieure de l'hôtel telle qu'elle se présentait en 1913, ça c'est en fait la façade qui se trouvait sur la rue, avec les têtes qui supportaient un balcon et qui supportent là des ateliers et des salles. Je crois qu'à ce moment-là, c'était, si je ne me trompe pas, il y avait un facteur d'instruments qui se trouvait dans l'hôtel d'Écuilly. Voilà les aménagements faits dans la cour de l'hôtel. Ça, c'est l'atelier au trombone. Grâce à un trompe-l'œil habile de l'artiste qui travaillait pour l'illustration, vous avez l'impression que vous avez des centaines et des centaines de personnes qui travaillent là-dedans. En fait, c'était un petit atelier. Là, on fabrique essentiellement, si je ne me trompe pas, non pas du trombone, mais du tuba. D'après ce que je vois par terre, c'est plutôt du tuba et de la trompette. Si je ne me trompe pas, nous avons là l'atelier où l'on fabrique les violoncelles, qui se trouvaient dans la cave. Ça résonnait mieux. Là, vous avez les violons. Les viols de gambe et autres contrebasses. Ça, c'était le magasin de vente. Et là, vous avez, c'était tout à fait curieux, c'était un grand marchand d'instruments qui se trouvait là, et qui disposait aussi d'une bibliothèque de partitions musicales pour que les gens dans un salon puissent essayer leurs instruments. Au premier plan, les timbales. Alors là, vous reconnaissez l'hôtel Montrésor tel qu'il se présentait au début du XXe siècle, alors que la ville de Paris l'avait acheté. Malheureusement, vous ne le voyez pas, il y a sur la porte de la bibliothèque une très jolie affiche vantant les bienfaits d'une pastille contre les maux de gorge. On la voit malheureusement mal. Alors ça, je ne vous ai pas parlé des deux fontaines qui se trouvent dans la rue. Tout à fait au nord de la rue Turenne, vous avez la fontaine Boucherat, du nom du chancelier Boucherat, qui en a fait don à la ville et qui a fait amener une conduite d'eau jusqu'à cette fontaine pour alimenter ces quartiers qui commençaient à être peuplés. Et dans tout à côté d'ici, vous avez de l'autre côté de la rue une autre fontaine qui était appelée la fontaine de Joyeuse, qui était une petite fontaine du XVIIe siècle, qui a été entièrement refaite, contrairement à ce qui est dit dans un dictionnaire des rues de Paris relativement connu, non pas en 1867, mais qui a été refaite en 1835, au moment sous Louis-Philippe, où l'on a d'abord reconstruit une grande partie des maisons de la rue Turenne. Beaucoup de façades datent de 1830-35, et surtout au moment où on a construit un grand nombre de fontaines dans la capitale. Et puis voilà, c'est tout. Je suis désolé, je vous dis, j'avais fait pas mal d'autres choses, mais... malheur et honte à moi, j'ai raté les diapositives.
Où est cette fontaine là?
La fontaine Boucherat, tout à fait en haut, pratiquement à l'angle de la... Oui, près de la rue Bretagne. Une des premières fontaines alimentées des eaux du canal de l'Ourcq qui viennent directement. Vous avez le canal de l'Ourcq a été terminé en 1808, si je ne me trompe pas, et les eaux ont été amenées dans l'ancien aqueduc de Ceinture. Et de l'aqueduc de Ceinture, on a commencé à creuser des canalisations. Et en 1835, ce sont les eaux directement du canal de l'Ourcq qui ont alimenté cette fontaine. Et d'ailleurs, elle est toujours alimentée par les eaux du bassin de la Villette. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres encore dans Paris alimentées par les eaux du bassin de la Villette. Je crois qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup d'autres. Il y a, alimentée par les eaux du bassin de la Villette, il doit rester toute la partie en haut de la rue de Lisbonne, à la limite 8e, 17e arrondissement, qui sont encore alimentées, toutes les bouches d'eau, qui sont encore alimentées par le bassin de la Villette. Mais en dehors de ça, il ne doit plus y avoir grand-chose, si ce n'est pas mal de bouches d'incendie dans Paris. Alors c'est pour ça que ça s'appelle la fontaine de l'Ourcq. Et en fait, elle a été pas mal restaurée ces dernières années. Il y avait autrefois un petit banc encore où on pouvait s'asseoir. Je crois qu'il y est encore derrière la grille. Et il y a une petite statue qui représente un petit amour, qui je crois a une pointe avec un triton, qui est du même sculpteur, j'ai oublié son nom là pour l'instant, que celui qui a fait la fontaine Charlemagne derrière l'église Saint-Paul-Saint-Louis. Et d'ailleurs, elles sont toutes les deux à peu près contemporaines, 1840 pour la fontaine Charlemagne, 1835 pour celle-là. Et vous en avez dans le quartier, vous en avez une un peu plus loin, rue de la Roquette. Quand vous allez rue de la Roquette, vous avez encore, malheureusement, ne fonctionne plus. Il y a encore aussi une très belle fontaine, qui est même beaucoup plus belle parce qu'elle a un bassin en grès rose, qui est beaucoup plus beau. Alors que là, c'est de la construction relativement plus ordinaire. Merci. Ah, mais c'est beaucoup bon, merci d'avoir été patient. Gentil.